Bonjour et une excellente année à toutes et à tous. C'est l'heure des bonnes résolutions et pour vous aider à les prendre, nous avons invité en seconde partie d'émission la philosophe Laurence De Villers qui publie « Être quelqu'un de bien » aux presses universitaires de France. Pour une philosophie du bien et du mal qui entend passer outre nos réticences à parler de morale, quand la gentillesse n'est plus une naïveté mais un acte de courage, l'actuel doyen de la faculté de philosophie de l'Institut catholique de Paris sera notre invité à 12h55 après le journal. Mais avant cela, plongez dans un univers où la morale, justement, est à géométrie variable, la mythologie grecque. C'est le nouveau terrain d'exploration du dessinateur Jules qui signe avec Charles Pépin un second volume de 50 nuances de grec sorti chez Dargo, ou comment penser la situation des réfugiés à la lumière de Charybde et Scylla, le mouvement MeToo à travers la culture du viol sur l'Olympe, la bande dessinée qui apprend en s'amusant n'est pas morte. Jules est notre invité jusqu'à 12h30.
La grande table. Raphaël Bourgois.
Pour moi, Homer est fondateur dans mon propre imaginaire, parce que très jeune, j'ai lu l'Odyssée, l'Iliade, et d'ailleurs pour moi tout se confond dans une sorte d'immense fantasmagorie de formes, d'inventions. Et quand j'étais adolescent, je lisais ça, je lisais l'Odyssée comme je lisais Tintin. C'était une sorte de grande invention, d'aventure comme ça. Enfin voilà. Et alors, bien sûr que on est très très tôt, je crois, pour ceux qui sont confrontés au monde grec en général, on est très tôt séduit parce qu'il y a un esprit d'enfance dans la littérature grecque. Il y a quand même toujours quelque chose qui passe la raison raisonnable. Il y a du grandiose, il y a du fabuleux, il y a du monstrueux. Et ça, c'est vraiment très, très séduisant. Et au-delà de ça, très vite, l'enfant, il comprend la radicalité des questionnements qu'il y a dans toute littérature grecque.
Bonjour Jules.
Bonjour.
Alors, on vient d'entendre le poète, dramaturge et écrivain pour enfants Jean-Pierre Siméon qui nous dit donc « Je lisais l'Odyssée comme je lisais Tintin », insistant sur l'invention, les formes et les aventures. Cette mythologie grecque que vous retravaillez donc dans ce nouvel album de 50 nuances de grec avec Charles Pépin, cette mythologie, c'est quoi? C'est un matériau idéal pour la bande dessinée?
C'est un matériau idéal pour tout. Et notamment toute la culture populaire, parce qu'on a l'impression que c'est une culture d'élite, les lettres classiques, le latin grec, l'antiquité. Mais en fin de compte, on est tellement nourri dans notre quotidien, dans les expressions qu'on utilise et dans toutes nos représentations par cet héritage-là, qu'on s'en rend plus compte. Mais finalement, Star Wars ou Plus belle la vie, en fait, ils ont puisé tellement dans toutes ces thématiques de et puis ne serait-ce que le vaudeville, parce que en fin de compte, la Belle Hélène, voilà, et l'opérette, c'est aussi ça. Des coucheries, des tromperies, de la violence, du sexe. Quand même, voilà, le monde grec et la mythologie, c'est Eros et Thanatos, le sexe et la violence. Le sexe, c'est 95% de la bande passante sur Internet, et la violence, ça doit être les 5% qui restent. Donc effectivement, on baigne dedans, et on s'en nourrit. C'est des telenovelas, c'est des rebondissements. Et moi, ces personnages, évidemment, c'est avant tout des personnages super typiques, stéréotypiques et en même temps sublimes. Bah, je les utilise sans arrêt en les mettant en scène et surtout en les faisant résister avec notre monde quotidien. Et c'est ça qui est très rigolo à faire.
On va en parler évidemment, puisque c'est un peu aussi votre marque de fabrique, Jules, depuis La Planète des Sages, depuis Silex and the City, voilà, d'essayer de faire résonner soit la philosophie, soit l'image qu'on peut avoir de la préhistoire, je sais pas comment il faut le dire, ou là, en l'occurrence, la mythologie grecque, de les faire résonner avec notre actualité. Mais puisque vous parlez de ces personnages incroyables, mais ils existent déjà, est-ce que c'est pas aussi un peu frustrant pour un démiurge, quelqu'un qui est un auteur de bande dessinée, qui aime bien créer des personnages? Alors, vous avez récemment adapté ou repris le personnage de Lucky Luke, donc des personnages existants, ça, vous l'avez déjà fait, mais est-ce qu'il n'y a pas quelque chose d'un peu frustrant aussi d'être contraint par ces personnages qui ont leur mythe, qui existent?
Ils ont leur mythe, mais en même temps, ils sont foisonnants. Déjà, on les connaît pas tous, donc il y a les superstars, il y a les 12 de l'Olympe, c'est un peu le ils sont en Ligue 1 ceux-là, mais en fait ce qui est extraordinaire, c'est que toute notre vie on peut creuser, puis il y a des millions de versions possibles. Les enfants, ils sont très très spécialisés, c'est des micro Jean-Pierre Vernant dans les généalogies divines. Donc si on interviewe très souvent une gamine de 10 ans, elle est capable de dire qui a couché avec qui, à quel moment, et quels sont tous leurs rejetons possibles, et donc on peut toujours piocher des gens. Donc évidemment, il y a des gags sur Zeus, il y a des gags sur Hera, sur Athéna, qui sont tellement riche que sans arrêt on peut les remettre en scène. Mais il y a aussi par exemple des blagues sur Chiamites. Vous savez qui est Chiamites?
Vous allez me l'apprendre, Jules.
C'est le demi-dieu des haricots. Il y en a plein des comme ça, des espèces de nobody qui sont en fait.
Moi j'ai découvert Terpsichore que je ne connaissais pas.
Terpsichore,
elle est hyper dure
à prononcer.
Ouais,
voilà,
c'est très difficile.
Ces noms grecs, Antinous, machin. Terpsichore, c'est voilà. Alors de temps en temps, on se fait des espèces de petits tests avec Charles Pépin en disant cite-moi les 12 travaux d'Hercule, cite-moi les 9 muses. C'est pas évident. Donc Terpsichore, c'est la muse de la danse. Il y en a. En fait, on se souvient des muses uniquement quand c'est des noms de bagnoles comme Clio ou des choses comme ça.
Mais parce que vous avez fait de l'histoire aussi. Vous êtes agrégé d'histoire.
Euterpe, des muses comme ça qui sont un peu moins mise en avant.
Moins mise en avant. Forcément, vous venez de citer Jean-Pierre Vernant, on peut l'écouter. Il revenait justement sur ce lien entre la mythologie comme histoire et la mythologie comme image. Ça va vous intéresser, Jules.
Le mythe, c'est un récit. Par conséquent, il s'agit d'une forme de langage. Et l'image est tout à fait autre chose. Est-ce que ça veut dire qu'il n'y a pas de point commun ? Historiquement, il y en a, puisque ce que les récits nous racontent sur les dieux ou les héros, nous les trouvons aussi peints sur les vases ou représentés dans des formes de sculpture. Il y a un point commun, dont nous dirons peut-être un mot, ce ne sont pas des images, mais ça met en jeu l'imagination. D'où énorme problème. Quel est le rapport entre le récit, ou ce type particulier de récit, ce qu'on appelle l'imagination et comment elle fonctionne et à quoi elle aboutit, et d'autre part, l'image qui est quand même déjà autre chose.
Voilà Jean-Pierre Vernant, l'historien Jean-Pierre Vernant, en 1996, déjà au micro de France Culture, qui vient de résumer, je pense, Jules, un petit peu la problématique à laquelle vous êtes confronté, j'imagine, pour créer ces 50 nuances de grec, à la fois une iconographie qui existe sur les vases et en même temps la nécessité de faire parler l'imaginaire, parce que c'est ça la mythologie.
Oui, et puis de faire rencontrer, je dirais, ces apports iconographiques, parce que dans 50 nuances de grec, en fait, les dieux ont les attributs qui leur ont été, au fur et à mesure de l'histoire, donnés. Donc, c'est pas forcément, effectivement, sur les tessons et les amphores qu'on va trouver forcément tout leur fringue, mais bon, quand ceux qui portent des toges taille basse ou
la chouette d'Athéna.
La chouette d'Athéna, mais par exemple, Hermès, qui est le dieu d'un peu tout, d'ailleurs, Hermès, moi, c'est un des dieux que j'adore, c'est le dieu de des télécommunications, et c'est aussi le dieu des voleurs, c'est le dieu des marchands, enfin, ça raconte d'ailleurs beaucoup de choses, hein. Le fait qu'il soit dieu de tout ça, il y a un axe sémantique, vous remarquerez. En fait, moi, je le dessine toujours, il est toujours avec sa tablette ou son téléphone portable en train d'envoyer des messages, ce qui a le don d'exaspérer une de ses maîtresses favorites qui est Aphrodite, qui dit « Oui, bah, moi, je passe pas ma vie à faire des tutos beauté, et pourtant, je suis la déesse de la beauté, donc il faut savoir de temps en temps mettre ses attributs divins au vestiaire. »
Il faut dire un mot de l'objet, Jules, de cet objet qu'est les 50 nuances de grec, cet album. C'est un album, ce qui est fait sur le modèle un petit peu de la planète des sages, c'est-à-dire à gauche, une planche de bande dessinée que vous dessinez, et à droite, un texte du philosophe Charles Pépin, qui fait un point sur une divinité, un épisode, un thème de la mythologie. Vous l'avez déjà dit, ce ne sont pas que des dieux. Vous avez parlé de bande passante tout à l'heure et de ce qu'on voit à la télévision. Il y a la boîte de Pandore qui est transformée en box internet dans votre...
La box de Pandore,
oui.
Avec ça, on peut recevoir Grecflix, avec toutes les séries, vous voyez. Et puis sinon, Bacchanal+. Mais là, c'est pour le coup, c'est la chaîne où ils passent des orgies encryptées. Et ça concerne un autre public. C'est plutôt les dionysiaques, vous voyez.
Et donc, il y a cette relation, ce dialogue entre vos dessins, souvent potaches, toujours drôles, et ces textes de Charles Pépin, qui, eux, rappellent ce que sont ces mythes, mais va souvent jusqu'à l'interprétation. Il ne s'agit pas juste de raconter l'histoire, mais il s'agit aussi de dire ce qu'elle représente et comment elle a pu être interprétée à travers les philosophes. Charles Pépin est philosophe, à travers la philosophie et la psychanalyse aussi, parce que on voit souvent que Jung ou Freud se sont emparés, évidemment, des mythes.
On est assez dialectique, effectivement, quand on travaille ensemble avec Charles. On inverse un petit peu la logique habituelle de l'illustrateur qui viendrait appuyer un texte. C'est plutôt le contraire, c'est-à-dire que je fais des pages de bande dessinée, je choisis les mythes, les grands thèmes que je traite avec des gags, avec du dessin. Une fois que j'ai fini toutes les pages, Charles Pépin vient faire effectivement ce petit essai en regard. Et alors, il commente, on discute. Il n'est pas toujours d'accord avec mes interprétations, en effet. Par exemple, il a toute une critique de ce que je fais faire à Morphée. Il y a tout le mythe où la fille qui se retrouve au pieu avec Morphée et le type est hyper ennuyeux. Il faut qu'il y ait une pièce à 18 degrés. Il faut pas avoir mangé gras et sucré. Il faut pas boire d'alcool pour pouvoir bien dormir.
Elle regarde un peu plus. Parce que la lumière bleue.
Tout ça. Il dit, mais non, mais ça, c'est hypnose. Enfin, on a toute une discussion là-dessus. Et on se complète pas mal. Et à vrai dire, c'est un peu la vocation de ces livres. Moi, ce que j'adore faire, et c'est ce que j'adorais aussi dans ma bande dessinée d'enfance, chez Goscinny, chez Gottlieb. C'était apprendre en s'amusant. C'est le rire sérieux. Et ça, c'est un concept grec que j'ai découvert un petit peu tardivement. Il y a un concept de l'Antiquité grecque qui est né avec la comédie grecque qui s'appelle le spoudeogeloion. Spoudeogeloion, c'est ça. C'est rire sérieux. Du fait que la comédie puisse être quelque chose d'extrêmement pédagogique, une façon d'établir une sympathie avec le public et de transmettre quelque chose mieux que n'importe quelle autre façon. Et moi, c'est ça que j'aime bien. C'est-à-dire qu'on a évidemment une réputation de bande dessinée intello, avec La Planète des Sages, on fait un best-seller en faisant des blagues sur Schopenhauer et Heidegger. Et puis là, voilà, on est sur Terpsichore, Apollon et Artemis. Et en même temps, ben, on les fait résonner avec la mode, le rap, les grèves, les mouvements sociaux, puisque quand même, on est dans
les
une période...
Les gilets jaunes deviennent la toison...
Ah oui, voilà. Ah, bah, ça, c'est
Jason
très
et la toison jaune.
C'est très important. À vrai dire, 50 nuances de grec, c'est aussi un manuel de survie pour la présidence jupitérienne. Hein. Donc, les mortels ne sont pas du tout contents
Jupiter qui n'est pas un dieu grec, mais un dieu romain.
Voilà. Bah, bon, alors, non, parce qu'ils ont évidemment plein de mutations, ces dieux et d'avatars. Parfois, on ne sait pas trop, justement. Et effectivement, les toisons jaunes... C'est Jason et le mouvement des toisons jaunes, ils occupent les ronds-points à la sortie de Corinthe, de Mycène, etc. parce qu'ils ne sont pas du tout contents, ils veulent rétablir l'égalité entre les hommes et les dieux. Ça, c'est un combat éternel hein, de la mythologie grecque, avec Prométhée, etc. Et puis, évidemment, l'abolition de l'ISF, qui est l'impôt sur la foudre. Enfin, au contraire, le rétablissement de l'ISF, plutôt. Et ça, tout ça, c'est encore en négociation. Hein. Ça fait 8000 ans que ça dure.
Les centaures avec nous, disent les pancartes des gilets jaunes de l'Antiquité, de la toison jaune. Jules, vous avez à plusieurs reprises évoqué ce rapport à l'enfance aussi de la bande dessinée et de la mythologie. Les mythes, c'est aussi une façon d'aborder le tragique de l'existence. Peut-être une façon qui n'est plus tout à fait prise en charge aujourd'hui par justement les dessins animés, la bande dessinée. Je ne sais pas ce que vous en pensez, mais c'est la réflexion que je me suis faite en le lisant, qu'on se fait souvent en pensant à ce qu'est la mythologie ou ce que étaient peut-être les contes aussi, par exemple. Le conte de Perrault, le conte d'Andersen, évidemment. Et donc, la question que je me pose, c'est est-ce que, véritablement, c'est aussi une façon de s'adresser à l'enfance en leur disant, ben voilà, l'existence, le tragique existe, on peut en rire, on peut le prendre par l'humour, mais il faut toujours le prendre en considération.
Oui, parce que c'est évident que la culture de masse a induit une édulcoration des passions. Effectivement, on a un robinet d'eau tiède permanent qui nous arrive un petit peu dans toutes les formes de culture, et du coup, tous les gens qui sortent un peu de ça, qui arrivent à faire quelque chose qui ont du goût, qui est puissant, qui est tranchant, et ben on les remarque énormément, parce que sinon, la base, la vulgate, je dirais culturelle, elle est quand même trop consensuelle. Donc, la mythologie, elle nous permet de dire, de parler de ce qui est extrême en nous, de nos passions les plus folles. Et justement, toutes les questions, par exemple, on parle énormément aussi depuis quelques années, de plus en plus, des questions de harcèlement sexuel, de violence faite aux femmes, de cette inégalité entre les hommes et les femmes. Et on se demande d'où ça vient. Et c'est certainement pas le prêchi-prêchage judéo-chrétien qui peut nous permettre d'expliquer ça, parce que ça a mis une espèce de vernis sous lequel, finalement, la violence inhérente à l'homme a continué à se développer dans tout l'Occident. Et finalement, la clé de ça, elle est dans la mythologie. C'est-à-dire qu'en gros, on prend Zeus, Apollon, Dionysos, Pan, ils auraient tous des hashtags aujourd'hui. C'est des harceleurs en chef. Ils passent leur vie à violer tout ce qui bouge.
Oui, la culture de viol est très présente.
Ah oui, oui, oui. Et puis ensuite, et toutes les métamorphoses, Zeus qui se métamorphose en nuage, en pluie d'or, en cygne, en taureau, pour se taper les filles à leur insu et de force bien souvent, ça raconte ça, cette histoire-là. Et donc, de s'intéresser à la mythologie, nous on le met en scène, il y a le mouvement hashtag MeToo. Tous les membres féminins de la mythologie, qu'elles soient héroïnes ou déesses, justement, se s'insurgent contre ça. Mais en fait, c'est pas complètement anodin. Bien sûr, il y a un gag autour de ça, mais ça raconte quelque chose de très profond. Est-ce que la mythologie, au contraire, portait au nu ce rapport-là de force entre les hommes et les femmes, ou au contraire, est-ce que c'était une manière de le mettre en scène, pour le mettre à distance, pour dire, oui, c'est présent en nous, c'est présent dans notre société méditerranéenne, mais peut-être qu'on peut en faire quelque chose de différent. Moi, ça m'a passionné de travailler là-dessus.
Oui, vous travaillez aussi, par exemple, sur les migrants qui vont évidemment de Charybde en Scylla. Vous abordez aussi des questions qui peuvent paraître plus légères. Hector qui commande un Uber, ça c'est impayable. Hector, donc le héros troyen.
En fait, non, oui, voilà, plus exactement, on fait croire à Hector qu'il a commandé un Uber, c'est parce que vu que le cheval de Troie marche pas, ils essaient de faire un Uber dans Troie, quoi. Et puis bon, ça marche pas toujours. Ce coup des migrants, c'est sûr que, en fait, La vocation de 50 nuances de grec, c'est d'éclairer la mythologie par notre actualité et vice-versa. Il y a cette espèce d'effet de navette. Et évidemment, la grande figure mythologique non divine, c'est Ulysse et l'Odyssée. Et en fait, la Méditerranée comme tombeau qui engloutit les héros, qui est vraiment le décor des destins les plus tragiques et d'une espèce de fatalité et de cruauté qu'on ne veut pas voir, eh ben, c'est vraiment le miroir de ce qui se passe aujourd'hui avec les migrants et avec les noyades quotidiennes et les milliers de gens, femmes, hommes, enfants qui sont noyés à chaque fois pour traverser la Méditerranée. C'est vraiment l'histoire incarnée par l'Odyssée d'Ulysse, ces espèces de micro-odyssées individuelles d'aujourd'hui. Elles ont la beauté et le tragique et l'actualité et l'importance brûlante que ce mythe-là pouvait avoir pour les habitants de l'Antiquité.
Vous avez adapté déjà, il y avait un premier album de 50 nuances de grec, tout comme vous l'aviez fait avec Silex and the City, vous l'avez adapté en série pour Arte. Est-ce qu'on parle de la même façon en bande dessinée ou dans ces petits épisodes de quelques minutes sur Arte? Est-ce qu'on aborde ces sujets de la même façon?
Alors, il y a un dialogue aussi entre la série animée et l'album. Quand j'ai dessiné le deuxième album, le deuxième tome de 50 nuances de grec, j'avais les voix des comédiens qui incarnent les dieux. Donc je ne les faisais plus parler de la même façon, d'avoir Cécile de France en Artémis ou Zeus incarné par Toréton ou Pénélope, c'est Valérie Lemercier qui fait la voix. Tout d'un coup, quand je mets en scène dans l'album Pénélope, elle n'est plus tout à fait pareille parce qu'il y a déjà un petit peu de Valérie Lemercier à l'intérieur. Et puis il y a des choses qu'on peut faire en audiovisuel qui ne marchent pas dans l'album. Il y avait tout un épisode The Voice Olympe, mais je pense là, par exemple, pour la prochaine saison sur laquelle on est en train de travailler, sur le dessin animé, il y a tout un épisode, c'est Catherine et l'Iliade. Et donc c'est l'Iliade racontée à hauteur des deux bonnes femmes, Catherine et Liliane, et c'est Lutz et Sanchez qui font les voix des personnages, mais elles sont en toge et elles commentent un petit peu, justement, elles résument en 3 minutes la totalité de l'Iliade, qui est quand même un livre qu'il faut s'envoyer, hein. Il est assez épais. Pas beaucoup de gens l'ont lu, hein, l'Iliade.
Écoute, franchement, je suis hyper content que tu aies réussi à rebondir. Quand on m'a dit que tu t'étais retrouvé sur le carreau à la fermeture de ta boîte, je me suis dit, mon vieil Héphaïstos, il faut que tu fasses quelque chose pour ton copain Héros. Eh ben, je vois que tu t'es très bien débrouillé tout seul.
Ah, c'est gentil, hein. C'est vrai que ça n'a pas été facile au début. Avec l'explosion des sites de rencontres et des applications de drague géolocalisée, je pouvais plus faire face à la concurrence. Tu m'aurais vu, sur la fin, volter le cul à l'air au-dessus d'Athènes, en espérant repérer deux amoureux à qui lancer des flèches, tandis que tout le monde avait le nez fourré dans son smartphone.
Mais comment t'as eu l'idée de créer Cupidon Dating?
Bah, j'avais déjà un gros fichier client. Du coup, je me suis dit qu'il fallait tirer parti de mon savoir-faire pour proposer un logiciel de mise en relation un peu classe.
Mais qui c'est qui s'inscrit sur ce genre de site?
Ah, mais tout le monde! C'est ça qui est super. N'importe quelle Athénienne de base se crée un profil et entre en contact avec des mecs de toute la Méditerranée.
Eros qui crée un mythique pour un mythe.
Adopteungrec.com.
Adopteungrec.com, ça aurait pu être un mythique M-I-Y-T-H.
Oui, mais bon, ça marchait qu'à l'oral. Donc, c'est marrant de pouvoir le faire à l'écrit aussi.
Ouais. Ça, c'est sûr. Ouais. Ça, c'est sûr. Et donc, oui, on entend ce travail avec les acteurs, donner une voix à vos personnages, évidemment. Et ça passe par un casting aussi très, très, très important. Parfois, vous faites venir, vous parliez de The Voice, vous faites venir Nikos Aliagas pour faire la voix.
Oui, il joue Eros Aliagas, précisément. Mais en fait, c'est très, très service public, hein, parce que en fait, les voix, c'est important. Et moi, je suis un auditeur fidèle de la radio. Et donc, pour
et
moi,
d'une radio en particulier.
Et oui, et évidemment, non, mais c'est vrai que moi,
je suis pas vous faire dire. Non, France Culture.
Mais j'allais dire, il y a pas mal de gens de France Culture qui défilent cette année. Adèle Van Redd joue Mnemosyne, la déesse de la mémoire, devant Zeus qui perd les pédales. Il y a Caroline Brouet qui joue une agente de la DAS de Béotie aussi, qui doit gérer les problèmes d'Antigone et des Adrides, qui sont une espèce de famille de cas sociaux qui habitent dans une cité, évidemment, comme tous les Grecs. Hein. Et puis voilà, donc il y a pas mal de gens. Et puis il y a plein de gens de France Inter aussi. Il y a quasiment toute la matinale qui y passe, notamment et dans l'album, dans le 50 nuances de grec. Moi, une de mes thématiques qu'on n'a pas évoquée et qui m'angoisse terriblement et qui m'obsède quotidiennement, c'est cette espèce de catastrophe environnementale qui nous environne, dans laquelle on est impliqué, embarqué, qu'on ne sait plus arrêter. Et donc, je rejoue la démission de Nicolas Éole, le dieu du vent et des énergies renouvelables, en direct sur Grèce Inter. Et voilà, parce que Zeus a décidé de faire passer l'Olympe au tout électricité. Et alors là, pour le coup, Nicolas Éole n'en peut plus.
Trois éclairs de nouvelle génération sur l'Olympe, alors qu'il avait misé sur les énergies renouvelables.
La foudre diesel et tout, c'est une catastrophe. Donc, j'ai demandé à Salamé et Demorand de rejouer exactement la scène de sur Grèce Inter, de démission. Et alors, ça aurait été marrant si Nicolas Hulot avait fait la voix de Nicolas Éole. Mais en fin de compte, j'ai fait une mise en abîme encore plus tordue, puisque c'est Yannick Jadot qui joue Nicolas Éole dans le dessin. dessin animé, donc c'est vraiment bizarre.
Ah oui, en effet, il y a beaucoup de sous-titres quand même. On reconnaît là le dessinateur de presse aussi que vous êtes, Jules, puisque vous avez travaillé, vous avez collaboré à Charlie Hebdo depuis de nombreuses années. Comment est-ce que ça irrigue aussi ce travail-là, cette approche par l'actualité? Parce que c'est quand même des albums ou des dessins animés, on se dit, des animations, on se dit, ça doit rester, ça doit marquer dans le temps. Est-ce que vous y pensez quand vous les faites?
Alors moi, j'ai quitté le dessin de presse justement parce qu'il y avait un côté trop éphémère, relié à certaines actualités un petit peu chaudes, qui se dissipaient, qui s'évaporaient, dont on oubliait tout, les tenants et les aboutissants. Ce que j'essaye de faire, ce sont de mettre en scène des grandes thématiques de société. Et donc, 50 nuances de grec, Silex and the City, ça met en scène des choses qui vont durer. On sait que le terrorisme, les violences sexuelles, la pédophilie, les problèmes d'émigration... on aura les mêmes dans 10 ans, dans 20 ans, dans 30 ans. Donc ça, c'est plus facile à mettre en scène. Mais effectivement, l'héritage de ce dessin de presse, c'est d'avoir à la fois un appétit, une attention à ce qui se passe autour de nous, d'être pas complètement uniquement des geeks qui seraient obsédés par la mythologie et par des choses un peu spécialisées, mais de voir le monde comme une espèce d'énorme saga qui se déroule devant nos yeux et de s'en emparer par petites touches. Et puis aussi d'avoir ce mordant-là et pas vraiment de limite. C'est-à-dire que de se dire, tous les thèmes qui sont les plus délicats, les plus difficiles à traiter, au contraire, il faut se les coltiner. Il faut y aller, faut pas avoir peur, parce que l'autocensure, on l'a senti de manière très très vive dans le dessin de presse, d'avoir ce décalage de plusieurs milliers d'années de la mythologie, ça permet d'aller très loin sur tous les thèmes. Et voilà, moi ça me donne une liberté et j'ai l'impression que pour les lecteurs qui sont au rendez-vous de ces albums, c'est une façon aussi de se réapproprier une grille de lecture du monde qui les entoure, de repousser un petit peu tout ce qui est à la fois le merchandising, la propagande, les slogans, la publicité, les slogans politiques dont on est irrigué et dont on se met à parler, comme on est traversé par ces espèces de lieux communs, et j'échappe pas à la règle. Donc j'essaie juste, à travers de ces dessins, ces jeux de mots qui peuvent paraître parfois un petit peu gratuits, ces décalages-là, de dire, ben non, au contraire, on a une forme de liberté. Tout ce qu'on nous vend comme très évident, c'est peut-être pas si évident que ça. Et voilà, c'est un outil, en fait, d'émancipation.
France Culture, la grande table. Raphaël Bourgois.
La grande table avec Jules, le dessinateur qui signe avec Charles Pépin 50 nuances de grec, le deuxième tome de cette encyclopédie des mythes et des mythologies. C'est donc publié chez Dargo. Il nous reste quelques minutes, Jules. Il y a cette bande dessinée, évidemment, mais vous êtes aussi le parrain l'année prochaine, en 2020, de l'année de la bande dessinée. La bande dessinée qui va commencer le 30 janvier, bizarrement, mais pas si bizarre que ça, parce que c'est la date du festival d'Angoulême, qui est la grande messe du 9e art, évidemment, chaque année en France et puis de plus en plus de façon internationale, puisqu'on arrive à avoir à Angoulême des auteurs du monde entier. Il n'y a pas que la BD franco-belge, il y a aussi la BD japonaise qui marche très très bien en France, le manga évidemment, la BD américaine qu'on a vu surgir et revenir ces dernières années, peut-être à la faveur d'Hollywood et des Marvel, mais pas que, aussi avec la création de maisons d'édition comme Urban Comics par exemple. Jules, c'est l'occasion de parler un petit peu de l'état de la bande dessinée, de dire que ce 9e art qui cherche toujours depuis très longtemps sa légitimité. On pensait qu'elle avait acquis, qu'elle était devenue adulte avec l'association, par exemple, dans les années 90, qu'elle a encore du travail à faire.
Oui, et puis c'est surtout de reconnaître la part prééminente que peu à peu prend la bande dessinée dans l'imaginaire collectif. On est évidemment depuis maintenant bien longtemps loin des clichés de la littérature pour enfants, de pur divertissement. Il y a tout dans la bande dessinée, c'est vraiment un miroir de l'époque. Et donc il y a du plus commercial au plus, je dirais, expérimental, des petites maisons d'édition confidentielles et des espèces d'énormes machines. Ça tire le paysage éditorial en France parce que les meilleurs ventes, très bien souvent, de livres, ce sont des bandes dessinées. Ça marche très bien économiquement et en même temps, il y a tout un statut du dessinateur de bande dessinée qui est assez précaire. C'est un monde, un milieu, une communauté qui est très disparate et dans laquelle beaucoup de gens ont beaucoup de mal à travailler dans les conditions présentes. Donc, c'est l'occasion aussi, l'année de la bande dessinée 2020, de mettre en avant et de faire dialoguer avec des musées, avec des grands lieux, avec des grandes institutions, avec l'éducation nationale, partout en France, sur tout le territoire, des événements liés à la bande dessinée, un petit peu tous azimuts, mais aussi, je pense, moi si j'ai accepté d'être parrain, je suis pas tout seul, on est quatre en fait, il y a Régis Loisel, Catherine Meurice et Florence Sestac, qui vont accompagner un petit peu tous ces événements. On nous a proposé de faire ce truc, alors c'est pas seulement de faire Miss France en maillot de bain et de couper des rubans, je pense que ça va être aussi l'occasion d'avoir la parole sur ces thèmes-là. On va être un petit peu plutôt aussi suffragette et syndicaliste, je pense, dans tous ces rendez-vous, de dire qu'il y a des choses à faire encore pour rendre la condition de créateurs, d'auteurs et d'auteurs de bandes dessinées en particulier, qui est un domaine où il y a des problématiques particulières, un peu plus juste d'une certaine façon.
Parce que c'est vrai que la légitimité artistique, j'allais dire, on voit qu'elle est là. Il y a eu il y a quelques années un grand livre, un beau livre chez Citadel et Masno sur l'art de la bande dessinée. Il y a des expositions, il y a Johann Sfar qui enseigne aux Beaux-Arts. Ce sont des signes évidemment qui ne trompent pas. Mais vous diriez que sur la situation elle-même, la situation économique, finalement la reconnaissance commerciale, économique du statut de l'auteur de bande dessinée aujourd'hui, c'est ça qui pêche. Qu'est-ce qu'il faudrait faire, Jules, selon vous?
Ah, c'est ambigu. Il y a plein de thématiques différentes. Il y a une question, tout un système de retraite complémentaire qui est une espèce d'usine à gaz monstrueux. Là, on parle beaucoup des retraites, mais ce système-là qui est totalement aberrant et qui a mis dans la rue d'ailleurs les dessinateurs de BD. Il y a un an et demi, je crois, il y avait eu une pétition qui a été signée. Alors, je me trompe, mais ça doit être par quelque chose comme 8000 auteurs de bande dessinée. Je savais pas qu'il y en avait autant. C'est-à-dire que ça a fait l'unanimité, c'est-à-dire des grands auteurs de Zep qui vendent des millions d'albums à des auteurs qui publient de temps en temps des petits fascicules dans des endroits qui sont très peu diffusés. Tout le monde était d'accord et s'accordait pour dire que tout ça était absurde. Et alors tout le monde se renvoie la balle, c'est pas le ministère de la Culture, c'est le ministère des Affaires Sociales, etc. Mais je pense qu'il y a vraiment encore un chantier à faire et de choses à négocier très importantes. Parce que c'est quelque chose de précaire. Et la BD, elle est en plus au carrefour de plein d'arts. Évidemment, c'est de la littérature, c'est de l'édition. Mais en fait, aujourd'hui, dans la bande dessinée, et on le voit parce qu'il y a une fluidité chez les auteurs, eh ben, on passe énormément du côté du cinéma, du côté de la télévision. Et en fait, notamment, voilà, l'audiovisuel puise, on en a parlé avec 50 nuances de grec, qui donne lieu à un dessin animé, mais c'est le cas de je ne sais combien de séries, de je ne sais combien d'albums, qui sont vraiment le terreau de l'inventivité. C'est valable pour l'audiovisuel, mais c'est valable aussi pour les beaux-arts, parce qu'on se rend compte maintenant, dans les galeries, dans les salles des ventes, bah, la bande dessinée, tout d'un coup, acquiert aussi un statut d'art graphique reconnu, et pas seulement une espèce de subculture. Et donc, bah, les planches de Bilal, bon, ça c'est une exception, qui se vendent comme des toiles de maître, mais aussi tout simplement des gens qui, tout d'un coup, parce que c'est le refuge du trait, sachant qu'aujourd'hui l'art contemporain est quand même massivement, c'est quand même massivement éloigné du trait, qui était l'alpha et l'oméga hein, des beaux-arts à un certain moment. Et voilà, ben tout d'un coup, la bande dessinée est devenue les bons dessinateurs. Ils font de la BD, ils font pas des installations vidéo, quoi.
Merci, Jules.
Merci.